Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France. Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans votre librairie francophone. Émission spéciale pour les 150 ans du Canada cette semaine depuis Montréal. Et il sera évidemment question aussi de l'actualité littéraire. L'actualité littéraire, donc, avec cette rentrée de janvier et un premier événement en librairie, la sortie du nouveau roman de Grégoire Delacour. L'auteur de La liste de mes envies revient avec un roman sur la liberté et sur le courage de changer de vie, un livre qui agite nos libraires. L'année 2017 est l'année des 150 ans du Canada. En 1867 était créée la Confédération du Canada avec l'entrée en vigueur de la Constitution le 1er juillet de cette même année. La librairie francophone s'associe à ces célébrations avec une série d'entretiens-reportages autour d'auteurs québécois. Premier épisode aujourd'hui avec la poétesse inoue Joséphine Bacon et avec l'illustrateur Pascal Blanchet qui vous racontera l'histoire ferroviaire américaine dans une gare de Montréal.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et comme toujours, quatre libraires sont en multiplex à travers la francophonie. Aujourd'hui, pour cette première de l'année 2017, on accueille une nouvelle libraire française. Et on part tout de suite en Martinique, à Fort-de-France. Bonjour Anne-Rosine Voza.
Bonjour Emmanuel.
Vous dirigez la librairie Le Papillon Bleu, une toute nouvelle librairie à la Martinique. On salue évidemment l'ouverture d'une librairie indépendante, c'est très important. Où êtes-vous, dans quel quartier se situe cette librairie à Fort-de-France?
Alors, cette librairie se situe au quartier Cluny, un quartier de Fort-de-France très résidentiel, avec beaucoup d'écoles, beaucoup de centres commerciaux. C'est un quartier extrêmement vivant.
D'accord. Qu'est-ce que vous voyez d'ailleurs par la vitrine, par la fenêtre?
Je vois des voitures qui circulent à toute vitesse.
Oui, c'est vrai que c'est dense, hein, là. La circulation est dense à Fort-de-France. Bon, merci Anne-Rosine. Vous restez bien sûr avec nous tout au long de l'émission. Bonjour Anne-Françoise Corr.
Bonjour Emmanuel.
Vous bonne représentez... Année. Bonne année à vous. Oui, bonne année à tous, évidemment. On va en reparler hein, de l'année 2017 tout au long de cette émission et puis des prochaines émissions. Vous représentez la Suisse. Vous êtes libraire, vous, à Payerne, dans la librairie Page 2016. Et en Belgique, c'est la licorne Déborah Damblon. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Bonne année 2017.
Ah, bonne année à vous.
Vous êtes libraire dans la librairie La Licorne à Bruxelles. Bonjour Jérémy Lagniel.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez le Canada, vous êtes libraire à Rosemère dans la librairie Carcajou. On vous souhaite aussi le meilleur pour 2017 dans cette librairie. Cette semaine, nous célébrons les 150 ans du Canada. Première émission spéciale, donc je le disais, depuis Montréal en cette première semaine de janvier. Expliquez-nous comment vont se dérouler ces festivités. Tout d'abord, quelle est l'histoire de cette célébration?
Oui, mais c'est drôle. Hein. Ici, à Montréal, on va avoir deux grandes fêtes qui vont se juxtaposer d'une certaine façon. Le 150e anniversaire du Canada hein, et le 375e anniversaire de Montréal. Alors, pour certains, ça fait déjà un peu... Ça manque un peu de sens, hein, avoir une ville qui a quand même 200 ans de plus que le pays en soi. Et c'est ça, l'histoire du Canada. C'est que d'abord, il y a eu, oui, des villes qui ont été fondées. Il y a eu des provinces, le Québec, l'Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick qui se sont retrouvés le 1er juillet 1867 pour vraiment créer cette confédération canadienne qui était seulement ces quatre provinces-là au départ. Et de fil en aiguille, jusqu'en 1999, là, le dernier territoire à avoir été reconnu, qui est le Nunavut au nord du Québec, ben, on a rajouté des provinces au fil des ans comme ça.
D'accord. Et donc, il y a des festivités hein, qui vont être organisées au moins sur le premier semestre. Même au-delà, je crois.
Ah oui, c'est durant toute l'année et c'est, comme le dit la devise canadienne, c'est admarer ou ce qu'est admarer. Là. D'une mer à l'autre, il y aura des festivités pour fêter ce 150e anniversaire du Canada. À Montréal, on peut penser à des legs hein, de ce 150e, donc des activités, mais qui vont, des installations qui vont perdurer, comme l'illumination du pont Jacques-Cartier à Montréal, qui va commencer en juillet et qui sera une installation qui va rester. Même chose avec la biosphère à Montréal, pour rappeler un clin d'œil à l'Expo 67, de même qu'une exposition qui va avoir lieu au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Bref, des festivités à Ottawa, Montréal et un peu partout à travers le pays.
Très bien. Et nous allons parler des 150 ans hein, dans les prochaines semaines. Premier épisode aujourd'hui, on parlera du jazz à Montréal, de la prohibition, des liens entre les États-Unis et le Canada, des liens aussi entre le Canada et la France. Ce sera avec un certain Nicolas Reeves prochainement. Carole Laure aussi sera avec nous. Plein d'autres artistes et auteurs. Merci Jérémy. Vous restez avec nous évidemment aujourd'hui depuis Montréal. La librairie francophone célèbre les 150 ans du Canada cette semaine. We'll Et bonjour Grégoire Delacour.
Bonjour Emmanuel Kérad.
Avant de parler de ces 150 ans, l'actualité littéraire, on commence donc cette année avec un fidèle de l'émission. Vous êtes l'un des auteurs qui crée l'événement en librairie avec un nouveau roman, cette rentrée de janvier. Votre succès, La liste de mes envies, génère beaucoup d'attentes. Danser au bord de l'abîme, c'est le titre de votre dernier livre. Vous abordez le sujet difficile de la possibilité de refaire sa vie. En cette nouvelle année, par exemple, on plaque tout et on refait sa vie. C'est irresponsable ou c'est courageux, ça ?
Je pense que refaire sa vie dans le cadre de ce livre, c'est surtout une histoire de désir extrêmement prégnant, ouais, qui va prendre possession du corps et de l'âme d'un personnage, d'une femme, et qui, à 40 ans, alors qu'elle a tout pour être heureuse, etc., va se poser la question, est-ce que j'y vais ? Est-ce que je cède à ce désir ? Est-ce que je prends le risque de quelque chose d'inconnu, une promesse sublime ou pas ? On verra.
Vous l'avez eu, ce fantasme, vous ?
Le fantasme de tout quitter ?
Oui.
Je l'ai fait.
Ah, vous l'avez fait ?
Oui.
Vous avez quitté tout le monde ?
J'ai quitté pour quelqu'un que je ne connaissais pas, que j'ai entreaperçu de trois quarts d'eau qui se tournait. J'ai dit, c'est incroyable ce qui m'arrive, c'est la femme de ma vie. J'ai pris le risque d'y aller.
C'est vrai ?
Oui. Et ça fait 18 ans que ça dure. Oui.
Incroyable.
C'est incroyable.
Alors là, du coup, vous nous secouez un peu parce que c'est vrai que c'est toute l'histoire du livre. Ouais. Avec votre personnage, Emmanuel, une femme, je précise, qui décide, après une rencontre dans un café comme ça, de quitter son mari, ses trois enfants. Ça se passe en 3 mois. Et pourtant, vous l'avez dit, elle mène une vie tranquille. Ça se passe bien, le couple va bien, les enfants sont gentils. Se dit qu'elle est irresponsable. Alors, je vais avoir du mal, moi, à vous poser mes questions maintenant,
oui,
parce que irresponsable.
Oui, on peut penser qu'elle est irresponsable. On a tous en soi cet émerveillement encore, même si on est très heureux chez soi, on est à l'affût, on peut être vu par quelqu'un. Et on peut être choisi, on peut tout remettre en question comme ça sur un coup de tête. La majorité des gens ne cèdent pas à ça. Mmh. Ils restent, il y a des enfants, vous l'avez dit, il y a un mari heureux, il y a du bonheur à la maison.
Bah oui.
Ce qui est terrible dans mon histoire, c'est qu'elle part non pas parce qu'elle n'aime plus son mari, ses enfants, sa vie, mais parce qu'elle rêve de quelque chose d'improbable. Et c'est sur cette improbabilité-là que je voulais écrire le livre.
Elle souhaite un vertige. Elle dit « je ne voulais pas d'un amant ». Je voulais un vertige.
Exactement.
Remords dans tout ça, Grégoire.
Elle veut ce vertige, elle veut... Je crois que ce désir qui jaillit, mais de façon très très brutale et entière en elle, réveille ses petites failles qui étaient insoupçonnables, puisqu'elle était dans une vie docile, bien heureuse, aimable, avec des enfants, tout allait bien. Et il y a tout d'un coup cette promesse comme ça qui jaillit et qui fout en l'air tout. Alors, tout le monde n'y va pas, heureusement, parce qu'il y a la morale, parce qu'il y a tout ça. Et celles et ceux qui y vont, je trouve, sont des personnages de roman.
Sont des personnes saccagées, comme vous dites ?
Sûrement, ou saccagent le temps du trajet vers... Il y a un saccage qui va être fait, ça va faire du mal. Comment on dit à un enfant qui dit « Mais maman, pourquoi tu t'en vas ? Tu ne m'aimes plus. Mais si je t'aime, alors pourquoi tu pars ?» Aimer, c'est rester, c'est pas partir. Et c'est tout ce conflit-là avec soi-même que je voulais traiter. Toujours cette quête du bonheur, de nos vies. Qu'est-ce que ça vaut d'être passé sur Terre ?
Mais alors, vous qui l'avez vécu, vous avez été un homme saccagé ou un homme qui a saccagé ?
Les deux, je pense que c'est les deux. Je pense que si on le fait, c'est qu'il y a une part de quelque chose d'abîmé ou d'incomplet, en tout cas en soi. Et après, il faut réparer. Il y a un temps extraordinaire qui est de la réparation.
Ouais,
et si on ne s'est pas trompé dans cette chose comme ça, ce départ fulgurant, si on ne s'est pas trompé, on peut réparer le mal qu'on a fait. J'en suis convaincu.
On va donner la parole à un libraire, Grégoire Delacour, une libraire, Anne-Françoise Corre en Suisse. Comment s'est passée votre lecture ?
Alors Emmanuel, moi la première partie de ce roman, autour de la rencontre et du désir, m'a, je dois l'avouer, un tout petit peu déconcertée, car je n'arrivais pas à cerner le personnage d'Emma. Mmh. Et puis soudain, à la suite de sa traversée de la douleur, je n'ai plus pu lâcher cette héroïne que j'ai accompagnée au fil des pages et jusqu'au bout avec grand bonheur. Je voudrais dire merci à Grégoire Delacour de nous offrir tous ces clins d'œil à la littérature, à la musique, à l'opéra et même à l'œnologie. Et merci aussi d'y avoir associé la chèvre Blanchette de Monsieur Seguin avec des mais.
Vous faites très bien la chèvre, Anne-Françoise. Voilà, premier commentaire des libraires, il en reste 3 autres. Hein, Grégoire, je vous préviens, ça va être un petit peu animé parce que tout le monde n'est pas d'accord. Grégoire Delacour, Emmanuel est détestable, on pourrait croire qu'elle l'est. Parce que, comme vous le disiez aussi, elle ose aller dans la chambre de ses enfants, qui sont de jeunes ados, pour leur dire « je m'en vais, je vous quitte ». Non pas parce que ça va mal, mais parce que j'ai envie de connaître un nouveau vertige. Comment fait-on pour accepter ça ? Comment fait-on pour l'imaginer, ça ?
Un, parce qu'on, je l'ai dit, on l'a vécu. Et deux, parce que le lieu même du roman, c'est d'aller à la lisière des choses possibles, des personnages, de l'humanité. C'est essayer de comprendre pourquoi on fait, on ne fait pas quelque chose. Moi, je reste convaincu, plus le temps passe, que la littérature, c'est une sorte d'analyse des conséquences. Mmh. C'est-à-dire qu'écrire, c'est prendre du recul pour analyser justement ce qui se passe, pour l'autopsier d'une certaine manière. Il est plus fréquent de voir un homme tout quitter dans la littérature qu'une femme, parce que justement, il y a le problème des enfants. Mais moi, j'aime bien aller titiller ça, tisonner ces morales-là. C'est ça aussi la littérature.
Et ça reste joyeux quand même pour vous.
Mais moi je pense que oui, parce qu'il y a une promesse de bonheur. Ouais. On le fait pas et c'est pas contre, elle part pas contre. Alors on peut dire l'égoïste et tout ça, mais je crois pas. Je crois que c'est plus grand que nous, ce genre de choses.
On va essayer de prendre un peu de recul, on va écouter la BO du roman. On vous a demandé, Grégoire Delacour, quelle est la musique qui illustre le mieux votre livre, la bande originale de votre histoire, comme dans un film. Et vous avez choisi Pharrell Williams, avec Happy, justement, c'est le bonheur, ou presque. On écoute un extrait et vous nous expliquez juste après. Pourquoi ce titre de Pharrell Williams, Grégoire Delacour ? Parce que vous citez plein d'autres musiques, des opéras notamment, et puis là, boum, Pharrell Williams.
Et Pharrell Williams est cité à la fin du livre.
Oui, mais
il
à la fin.
Il participe de cette grande fin, comme ça, de cet endroit où ils vont tous aller, tous les personnages, vers le bonheur, parce qu'au fond, tout ça est une histoire de recherche du bonheur. Ouais. Et que le bonheur, il est aussi cette chance incroyable qu'on a d'avoir été en vie, d'être passé sur la Terre. Quels que soient les chagrins, les douleurs qui nous ont traversés, on a une chance absolument inouïe. Et malgré tous les drames, c'est une maman qui quitte tout, il y a quand même une importance et une nécessité à être heureux. Et c'est ça que je veux aussi célébrer avec ce livre, c'est cette joie qu'on a d'être vivant.
Et à propos de la quête de la liberté, vous faites un parallèle avec la chèvre de Monsieur Seguin. Alors ça, c'est assez intéressant parce que, effectivement, il y a cette envie de liberté, cette envie aussi d'aller au-delà, de sacrifier des choses, d'oser.
Alors c'est, dit pour notre ami suisse, c'est Blanquette et pas Blanchette.
Oui,
c'est ce que... en fait, c'est intéressant parce que quand j'ai créé le personnage d'Emma, Blanquette est tout de suite apparue dans mon esprit. Et je trouvais que c'est une histoire extraordinaire qui m'a marqué quand j'étais enfant, qui a marqué des générations comme ça de femmes, de jeunes filles, avec cette histoire extraordinaire qu'on m'a vendue, moi, enfant, comme étant une histoire sur « tu vas désobéir, tu désobéis, voilà ce qui va t'arriver ». Mais ce n'est pas du tout ça. C'est une histoire absolument fabuleuse sur le désir irrépressible.
Ouais, c'est ça.
Cette promesse d'un vertige dont on sait qu'il y a un prix à payer. C'est que ça ne va pas durer. Ouais. Et on a beau lui dire mais tu ne comprends pas, je t'aime, tu as bien mangé ici, tu as tout. Pourquoi tu veux ? Parce que je veux aller dans la montagne. Mais pourquoi ? Je veux y aller, laissez-moi y aller. Mais tu ne m'aimes pas, mais si, mais alors pourquoi ? Je veux y aller, mais le loup va te manger, tu vas mourir. Je veux aller dans la montagne. Et c'est ça qui est éminemment romanesque. C'est pourquoi, pour quelque chose qu'on ne connaît pas, on est prêt à tout sacrifier. Et je trouve que c'est beau cette idée, c'est le lieu de la littérature, c'est de bouger les lignes de nos vies.
Et comme dans votre précédent roman, on ne voyait que le bonheur, vous abordez l'air de rien comme ça, l'abandon. Quitter ses proches, ses enfants pour votre personnage, se faire quitter par l'amour de sa vie, ou même, chose inimaginable a priori, se faire quitter par sa mère. C'est un sujet qui vous concerne, vous l'avez dit tout à l'heure, que vous avez vécu d'une certaine façon. C'est un problème, ça, pour vous, l'abandon, au fond de vous, c'est quelque chose d'assez récurrent, je trouve, dans votre...
Oui, là, en écrivant maintenant quelques livres, je me suis rendu compte que la hantise, ma hantise et la hantise de plein de gens, la chose la plus terrifiante qui peut nous arriver en tant qu'être humain, c'est de plus être aimé. De plus être aimé par les gens qui devaient nous aimer, des parents, un conjoint, etc. Et c'est ce lieu-là, je trouve, que j'essaie de trouver des réponses, enfin, ce qui me concerne, d'apprivoiser cette peur-là. Oui, qui est une forme de peur d'être abandonné, mais ne plus être aimé, la chose la pire qui puisse nous arriver. Et ça arrive tout le temps, ça. On blesse des gens, on détruit des gens. Ne plus aimer quelqu'un peut le tuer. De même qu'aimer aussi, ou mal aimer pour tuer. Et ça, c'est quelque chose, oui, qui me tracasse, sans doute parce que j'ai, à un moment de ma vie très jeune, plus été aimé par les gens qui devaient m'aimer. Et sûrement, mon écriture, 30 ans après, une sorte de révolte aussi, d'essayer de comprendre de quel fracas je viens.
Il y a cette femme qui va franchir donc le pas de la maison familiale, elle abandonne sa famille, elle part avec son nouvel amour, et là il va se passer quelque chose d'inattendu, de terrifiant, c'est le drame absolu, le destin s'en mêle, et le destin, Grégoire Delacour, il nous dirige toujours.
Mais oui,
sans
mais
raconter
oui,
des choses.
Oui, c'est la vie n'est pas aussi simple que dans un livre. Non, il y a
vous allez assez loin quand même.
Oui, il y a ce loup entre guillemets, il y a cette menace.
Oui, c'est ça. Il y a le loup qui est derrière.
Pour moi, il était important que ce désir, il ait un prix aussi.
Trois autres libraires ont lu votre roman, Grégoire. France, Canada ou Belgique. Qui préférez-vous en premier?
Belgique.
Allons-y, Déborah Damblon.
Voilà. Alors moi, je suis un peu plus mitigée. J'ai trouvé votre livre assez long, en fait, et puis surtout très, très, très triste. Et je reconnais pourtant que vos personnages, ils font tout ce qu'ils peuvent pour rester ancrés dans leur vie. Moi, j'ai lâché prise plus vite, et peut-être aussi à cause de Blanquette, à cause de la chèvre de Monsieur Seguin, parce que ça aussi, ça réveillait chez moi des échos de tristesse. Ça a quand même été ma plus grande, ma première peine littéraire.
oui, enfin, je pense
pas de bol.
Pardon,
pas de bol.
Pas de bol, oui. Jérémy Laniel au Canada.
Oui, bien, on en parle beaucoup, mais c'est dans la liste de mes envies, il y a quand même quelques années, de la cour brodée autour de Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Bon, ici, on a une héroïne qui s'appelle Emma. Elle bovarise un peu. Et c'est avec la chef de M. Seguin, Daudet, qu'il désire faire une courte pointe. Ces différents appels à l'autorité littéraire me rendent toujours un peu mal à l'aise, surtout quand il en résulte, à mon avis, un roman un peu brouillon où la concision est trop souvent synonyme d'aphorisme un peu gras et où le drame parsemé comme un simple réflexe narratif finit comme un vulgaire élément de surprise. C'est une déception de mon côté.
D'accord. Anne-Rosine Vosa en Martinique, vous n'êtes pas du tout d'accord.
Ah, moi, j'ai adoré ce livre, je l'ai trouvé absolument merveilleux. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont Grégoire Delacour arrive à sonder vraiment la psychologie des personnages et particulièrement la psychologie du désir féminin, avec une méthode quasi scientifique comme spéléologue. Toute cette profondeur est absolument renversante et dite avec un langage tellement juste et tellement précis que ça a laissé des traces, et quand j'ai terminé ce livre, je me suis sentie abandonnée.
Très bien, merci Anne. Oui,
merci.
Grégoire.
Moi, je suis très touché ces trois commentaires d'ailleurs, hein, et je prends celui de Jérémy avec beaucoup d'attention. Ça m'étonne moins. J'ai remarqué que les hommes sont moins sensibles à mes textes que les femmes, et bon, faudra que je réfléchisse.
Non, c'est pas. Moi, j'ai été très sensible aux deux premières parties. Ouais. Je vais vous dire un truc, Grégoire. Tiens, vous m'avez un peu énervé parce que les deux premières parties sont sublimes. C'est concis, c'est efficace, c'est très bien écrit. Vraiment, j'ai été surpris, charmé. Et la troisième partie, c'est le drame absolu. On peut pas tout raconter. Mais là, vous allez directement dans le glauque. Vous auriez pu vous arrêter à la deuxième.
Bon, je vais vous faire un exemplaire spécial avec tous les deux parties.
Une réédition.
Voilà, mais bon, chaque avis compte.
Oui, c'est ça.
Voilà, et pour moi, la troisième partie est extrêmement importante parce qu'elle travaille. Bon, à quoi sert l'amour quand il n'a plus d'avenir?
Oui, c'est ça.
Comment on peut vivre l'instant et puis se projeter dans un futur, dans une éternité qui est un fantasme absolu. Et puis c'est des choses qui me touchent de façon extrêmement proche, puisque très 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 proche de moi, il y a quelqu'un d'extrêmement malade.
Ah, d'accord.
Et tout d'un coup, à quoi ça sert tout ce qu'on a appris, tout l'amour, mes amours, tout ça.
Non, parce qu'on pourrait croire que c'est une ficelle, en fait, pas du tout.
Pas du
là
tout,
aussi, vous êtes dans un vécu
proche et extrêmement important pour moi, comme le fut en voyant que le bonheur suite au décès de mon père.
Ouais,
mais
ouais.
Là, c'est une agonie qui dure longtemps. Et qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un s'en va? C'est quoi les heure après heure?
Tout à fait. Vous le décrivez très bien, ça.
La grâce d'une vie.
C'est clair.
D'où Pharrell Williams, sa pipe.
Oui. Alors, je vais vous dire, je vais vous confier une chose aussi, c'est que ce livre, je l'ai lu juste avant Noël. Et je l'ai lu surtout le lendemain de la mort de Michel Morgan. Et ce livre, c'est aussi un hommage à Michel Morgan. Alors ça m'a beaucoup troublé, parce qu'il y a plusieurs pages avec un personnage qui s'appelle Mimi, qui est comparé à Michel Morgan. Vous citez ses films, vous citez évidemment les répliques, t'as de beaux yeux, tu sais, etc. Vous la connaissiez, Michel
Morgan ?
Non,
non, mais j'ai été fasciné par ce personnage qui était extrêmement atypique dans l'univers des actrices, qui était plus people, etc., qui avait une élégance, comme c'est une discrétion. Et ce qui m'avait absolument fasciné, c'est quand j'ai entendu, il y a longtemps maintenant, qu'elle vivait une belle histoire d'amour avec Gérard Rouri, mais qui ne vivaient pas ensemble. Et je trouvais ça absolument fascinant de se dire on va vivre, mais de loin, et avoir que les meilleurs moments ensemble. Et au fond, ça m'a inspiré le personnage de Mimi dans le livre.
Vous aimez bien les actrices, hein, parce qu'elles apparaissent souvent. Il y avait une certaine Scarlett Johansson,
oui, je les aime
qui
bien
vous a même fait un procès.
La pauvrette. Non, les actrices, c'est important. C'est des gens comme les personnages de romans qui se réinventent. On s'invente des vies, on meurt, on renaît à une autre période. On peut être heureux, malheureux. On peut faire le bien de façon inattendue. Donc, c'est des gens qui ont plein de vies. Et ça, c'est fascinant.
On va terminer avec une citation de votre livre. Vous évoquez à un moment le mystère de la vie. Et l'un de vos personnages dit, et d'ailleurs ça justifie un peu votre troisième partie, hein, je me rattrape un peu. Vous écrivez, il faut accepter qu'il y ait des choses plus grandes que nous, sur lesquelles nous ne pouvons rien. Ça nous remet à la bonne proportion dans l'univers.
Oui, je pense que c'est ce qu'on évoquait à l'instant. C'est le mystère de la vie, le mystère de la mort sont des choses plus grandes, plus belles que nous. Il faut les aimer aussi.
Merci beaucoup Grégoire Delacour.
Merci Daniel-Pierre.
Danser au bord de l'abîme est paru chez Jean-Claude Lattès. C'est l'une des belles surprises de cette rentrée littéraire de janvier à lire. Donc merci Grégoire d'être fidèle à la librairie francophone.
Merci de votre fidélité.
À bientôt. À suivre les 150 ans du Canada depuis Montréal avec la poétesse Inou Joséphine Bacon et l'illustrateur Pascal Blanchet. On vous raconte une partie de l'histoire ferroviaire américaine dans une gare de Montréal. Avant cela, voici le froid de l'ouragan dans le froid québécois. Laura Cahen, froid sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les radios francophones publiques.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Et toutes les semaines, nous vous emmenons dans la plus grande librairie du monde avec des libraires et leur coup de gueule, leur coup de cœur aussi. On part en Belgique, on file vers les beaux livres. Déborah Damblon, coup de gueule ou coup de cœur ?
Bah, coup de gueule, Emmanuel. Enfin, non. Plutôt un gros coup de tristesse.
Oui.
Vous savez, un blues de début d'année.
Oui.
Parce qu'on a vécu les fêtes avec plein de beaux livres magnifiques tout partout sur nos tables. Et puis là, c'est le début de l'année. Et puis pour des questions de trésorerie, on est obligé de retourner presque tous ceux qui restent. Et on les aime encore tellement.
Oui, c'est-à-dire vous pouvez pas tout vendre et vous pouvez pas tout garder surtout, c'est ça ?
Voilà, et c'est tout à fait ça.
Ouais. Voilà, c'est le jeu de la librairie. En Suisse, dans le rayon des romans, c'est Anne-Françoise Corr qui nous attend avec un coup de cœur, je crois, Anne-Françoise.
Oui, Emmanuel, un coup de cœur pour le quatrième roman d'une auteure française qui vit à Payerne, qui s'appelle Catherine Roland, et qui vient de publier son roman intitulé « Sans lui », publié aux éditions Mon Village. Catherine Roland nous fait vivre la relation de frères jumeaux, Loïc et Ethan, qui vivent une relation fusionnelle. Mais c'est en fait l'histoire de leur impossible séparation. Un texte qui est de surcroît porté par beaucoup de beauté.
Ouais.
Mais la chute qui va intervenir, comme toujours, va nous surprendre et nous intriguer, à tel point que je pense les lecteurs auront envie de relire les premières pages du livre à la lumière de la fin.
Très bien,
mais
sans
c'est,
lui.
C'est une très belle narration.
Sans lui, c'est le titre de ce livre de Catherine Roland aux éditions Mon Village. Merci Anne-Françoise. Depuis Montréal, donc, nous allons à présent parler des trains. C'est en 1830 que la première locomotive américaine est mise en service. Et au Québec, c'est la locomotive Dorchester qui est financée par le brasseur John Molson. À partir de là, le chemin de fer va engendrer des relations entre le Canada et les États-Unis. On vous raconte cette histoire tout de suite avec Pascal Blanchet.
La librairie francophone, Emmanuel Quérad.
Voilà, nous sommes sur un quai de la gare centrale ici à Montréal, un vaste endroit. C'est assez compliqué de venir, donc on va remercier Via Rail qui nous a permis d'accéder au quai. Bonjour Pascal Blanchet.
Bonjour.
Alors à l'occasion des 150 ans du Canada, on est venu vers vous pour un livre que vous avez publié qui raconte l'histoire ferroviaire canadienne et plus largement américaine. Vous êtes un grand illustrateur et ce livre en voiture conserve l'esthétique des affiches et symboles de l'époque. L'histoire du chemin de fer canadien part de Montréal.
Oui, en effet. C'est à partir de la gare Dalhousie qu'a eu lieu la première liaison transcontinentale au Canada.
Il y a un premier segment très important, c'est la ligne Montréal-New York, mm-hmm. qui va lier économiquement et culturellement les deux pays.
Oui, en fait, 5 mois par année durant au Canada, les voies navigables sont gelées. Donc, le train devient la seule option pour réussir à circuler tout au long de l'année. Donc, cette ligne-là va devenir une des premières, en fait, à relier le Canada et les États-Unis.
C'est à partir d'ici où nous sommes en ce moment. D'ailleurs, il y a un train à côté de nous qui part justement vers New York, qui part aussi à travers le Canada, car il a fallu évidemment traverser le pays. De nombreuses personnalités ont voyagé à bord de ce premier train.
La première célébrité, c'est Charles Dickens, en fait, qui était directeur artistique d'un théâtre à Montréal à cette époque-là. Donc, il venait passer ses étés ici, en fait. Donc, c'était un des premiers passagers de la ligne de train.
Alors que des voyageurs arrivent et partent pour Toronto, hein, parce qu'il y a un train là qui est en partance pour Toronto, on va laisser la parole à nos libraires. Pascal, vous savez qu'on a des libraires dans cette émission.
Mm-hmm.
Ils vous ont souvent soutenu d'ailleurs, hein, les Québécois.
Oh oui, tout à fait.
Alors, ils ont lu votre livre, Pascal Blanchet. Mathieu pour la France, séduit par ce livre sur les trains ou pas?
Eh bien, plutôt oui. D'abord parce que le parti pris graphique fait vraiment mouche. Ensuite, j'ai trouvé que le choix de couleurs était très pertinent et les textes vraiment intéressants. Alors pourquoi ils sont intéressants ces textes? D'abord parce qu'on apprend des choses et ensuite parce que le cachet qui se dégage des images et qui semble tout droit sortir des années folles est tout simplement imparable. En bref, magnifique et plutôt captivant, on aimerait juste un tout petit peu plus.
Très bien, Déborah pour la Belgique, qu'en pensez-vous du côté de Bruxelles? Il y a un beau musée du train à Bruxelles d'ailleurs, vous le connaissez Déborah?
Ah ben oui, il est à la gare de Schaerbeek, la plus belle gare de Bruxelles si vous voulez mon avis. Mais trêve de gare, Emmanuel, si un jour vous m'aviez dit que je pourrais m'enthousiasmer pour l'histoire du chemin de fer, je vous aurais ri au nez, honnêtement. Mais là, vous avez vraiment déployé les grands moyens parce que ce livre, ben, c'est d'abord un voyage formidable et puis ce sont des illustrations encore bien plus magnifiques que le voyage. Vraiment, j'ai adoré d'un bout à l'autre.
Voilà les commentaires de nos libraires Pascal Blanchet. Il y a des locomotives de légende dans votre livre, comme la locomotive à vapeur Hudson du Canadian Pacific, construite en 1938 et qui va tirer le train royal lors de la visite de George VI, roi d'Angleterre.
En effet. D'ailleurs, cette locomotive est toujours en fonction aujourd'hui. Elle fait encore la ligne Toronto-Vancouver. Donc, il est possible de voyager à bord du train royal, finalement, encore aujourd'hui, puisqu'il est toujours intact dans son état d'origine.
Et vous expliquez que lorsque les États-Unis et le Canada se lancent dans la conquête de l'Ouest, le chemin de fer a un rôle prépondérant. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Ben, en fait, étant donné que c'est le seul et unique moyen de communication avec l'Ouest, puisqu'avant le train, en fait, l'Ouest, autant du Canada que des États-Unis, est absolument pas populé par les Blancs. Donc, c'est la seule et unique façon d'arriver, finalement, à la Californie et, dans le cas du Canada, à la côte ouest, aux Rocheuses et tout ça. Donc, c'est ce qui va lancer complètement l'économie des deux pays. C'est ce qui vraiment ce qui va faire en sorte que... Et ces deux chemins de fer-là, chacun de leur côté aussi, visent à faire du protectionnisme, en fait. Les États-Unis se protègent du Canada et le Canada se protège des États-Unis en créant ces deux chemins de fer-là pour développer une économie à l'interne.
Ah oui, donc il y a une sorte de concurrence, c'est ça?
Oui, tout à fait. Oui, oui.
Vous écrivez dans ce livre, Pascal Blanchet, c'est grâce au chemin de fer transcontinental canadien que les provinces de l'ouest du pays, le Manitoba, l'Alberta et la Colombie-Britannique, se développent.
Ben, en effet, parce que les villes sont apparues à chaque endroit où il y avait une gare, finalement. Donc, au fur et à mesure que le chemin de fer avançait, les villes apparaissaient, premièrement parce qu'il fallait loger les employés qui construisaient eux-mêmes la voie ferrée. Et ensuite, l'industrie a commencé comme les communautés ont commencé à prospérer suite à ça. Donc, c'est ainsi qu'on a découvert, en fait, que dans les plaines du Canada, il y avait tant de blé qui pouvait pousser là-bas, tout ça. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé la culture, finalement. C'est grâce au train, hein.
Grâce au train et qu'on installe des hôtels aussi parce que du coup on motive le tourisme et on joue beaucoup sur le tourisme. On s'aperçoit qu'avec ces trains, déjà c'est de la main-d'œuvre, ça génère du travail et ça génère des voyageurs et des touristes. Tout change à partir de là.
Oui, ben en fait c'est vraiment la naissance de l'industrie du tourisme en Amérique. Ça attire énormément d'Européens, particulièrement la bourgeoisie britannique qui rêve de découvrir le Canada. Donc, c'est une espèce de ruée, finalement, vers le Canada et ses contrées sauvages. Donc, tous les clichés qu'on connaît aujourd'hui du Canada viennent, en fait, de cette culture-là, du voyage, du train. Et les compagnies ferroviaires mettaient beaucoup ça de l'avant, là.
Alors, par ailleurs, la Colombie-Britannique occupée réclamera le chemin de fer pour adhérer à la Confédération canadienne. C'est une condition pour faire partie du Canada qui se crée à ce moment-là.
Oui, il y a plusieurs provinces. En fait, la Confédération n'existerait pas si ce n'était pas du train. L'histoire du train est aussi un truc terrible. Donc, entre autres, par la rébellion des Métis qui, eux, se rendent compte finalement que les compagnies ferroviaires empiètent complètement sur leur terre, leur volent leur terre, tout ça, et se rebellent. Et les compagnies de chemin de fer offrent au gouvernement d'envoyer les troupes par train gratuitement pour aller mettre fin à cette rébellion-là. Et en échange, le gouvernement leur donne des sommes d'argent infinies pour terminer le chemin. Donc, c'est une histoire absolument horrible. Mais la Confédération se fait avec beaucoup de gestes qui sont plutôt agressifs. On n'a pas idée, je pense, à quel point le Canada peut être quelque chose d'aussi très agressif, là, en dehors de son air d'ours doudou. Là.
D'ours doudou.
Ouais.
C'est comme ça que vous définissez les Canadiens. Ouais.
L'image, du moins, du Canada. Oui, ouais.
Voilà, le train qui est en train de partir hein, pour Toronto et New York, ici depuis Montréal et cette gare centrale. On termine ce voyage par Vancouver. Oui. Pascal Blanchet, dernière gare du transcontinental canadien, l'un des plus grands ports de l'océan Pacifique, a encouragé l'immigration pour construire le pays, mais aussi pour animer la vie économique du Canada.
Oui, en fait, au départ, Vancouver était une bourgade sans importance. Et à partir du moment où la navigation a commencé à prendre de l'ampleur un peu, on s'est vite rendu compte, en fait, que ça allait devenir finalement le port d'entrée de l'Asie, finalement, au Canada. Donc là, la ligne a été allongée jusqu'à Vancouver et c'est devenu le transcontinental complet, finalement.
Locomotive quitte le quai de la gare dans un fracas absolu. Et ce train aux couleurs bleu turquoise, bleu vert, jaune et gris, part vers New York. Merci beaucoup Pascal Blanchet.
Merci à vous.
Merci infiniment pour ce grand voyage à travers ce livre En voiture, l'Amérique en chemin de fer est paru aux éditions La Pastèque. Vous restez avec nous Pascal, vous restez à Montréal. À bientôt, merci. On ne prend pas le train dans cette plus grande librairie du monde. On quitte la gare centrale de Montréal et on va tout de suite en Martinique. Anne-Rosine Voza, vous représentez la France et vous avez un coup de cœur à Fort-de-France.
Oui, j'ai eu le coup de cœur pour la matière de l'absence de Patrick Chamoiseau.
Vous savez, c'est cet écrivain martiniquais qui a obtenu le prix Goncourt en 1992 pour son roman Texaco.
Oui.
Et dans ce roman, il évoque, qui est aussi autobiographique, il évoque la mort de sa mère. Et à partir de cet événement qui est douloureux, il va proposer une relecture, une histoire de la Martinique, et depuis les origines. Mais au-delà de la Martinique, parce que je considère que ce roman n'est même plus un roman antillais, mais qui devient un roman universaliste, parce qu'il donne à voir justement l'humanité dans ce qu'elle a de plus beau, de plus dur, et de plus porteur d'espoir. Donc je conseille vraiment la lecture de ce livre qui est paru aux éditions du Seuil en septembre 2016.
Oui, La matière de l'absence, c'est le dernier roman de Patrick Chamoiseau. Voilà, Anne-Rosine Voza, vous aimez Chamoiseau, c'est normal, c'est un auteur magnifique. Et donc Grégoire Delacour, vous connaissez la Martinique, Grégoire ?
Non, pas du tout.
Bah, faut y aller, voyez. Vous avez une nouvelle amie.
Ce qui a été dit, je vais y aller.
Il faut lire Chamoiseau aussi.
Ah bah oui, bien sûr. Bon. Très beau titre d'ailleurs,
celui-ci. Oui, c'est vrai. Dans le rayon poésie, Jérémy Laniel, au cœur de ses 150 ans du Canada, un coup de gueule, je crois.
Oui, un coup de gueule, Emmanuel, autour du silence à la fin de la dernière année, autour du 20e anniversaire du décès de Gaston Miron, qui est peut-être l'un de nos plus grands écrivains, poètes. Bon, faut le dire, il y a quelques semaines, on était submergés, tout le monde, par la folie des fêtes. Mais on a complètement oublié un anniversaire d'une grande importance. Hein. Ça nous est passé sous le nez, dans le silence avec lequel nous l'avons laissé faire. Ça me désole énormément. Et il y a une petite colonne dans un quotidien qui lui rend hommage de très belle façon, je dois le souligner. Et puis, c'est à peu près tout. Hein. Alors, auditeurs, ouais. Je vous dirais, prenez en main votre exemplaire de l'homme rapaillé et célébrer cette langue parce que c'est la nôtre. Emmanuel, vous le savez comme moi, nos mythes littéraires, nous devons de les entretenir.
Exactement, vous devez lire Gaston Miron et on plaide coupable hein, parce que nous aussi, finalement, on n'a pas parlé de ce 20e anniversaire du décès de Gaston Miron. Voilà qui est fait. Merci beaucoup Jérémy Laniel. La librairie francophone spéciale 150 ans du Canada depuis Montréal. On vous emmène découvrir une auteure inoue exceptionnelle. Joséphine Bacon est une référence de la poésie canadienne. Elle a choisi l'Oratoire Saint-Joseph pour un entretien intime et émouvant. On la rejoint le temps d'une chanson qui nous réchauffe avec un tube francophone adapté par Yuri Buenaventura.
We'll be right back.
colombien Yuri Buenaventura, le jazz et la yava ou la java, titre de Nougaro, sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter. Bonjour Joséphine Bacon.
Bonjour.
Nous vous avons demandé de choisir un lieu dans Montréal pour réaliser cet entretien. Nous sommes à l'Oratoire Saint-Joseph, dans le quartier Côte-des-Neiges, sur un versant du Mont-Royal. Mm-hmm. On domine quasiment toute la ville ici.
Ouais.
Pourquoi avez-vous choisi ce lieu ?
Pour être proche du vent et voir un peu l'horizon. C'est important de voir loin pour rêver. Et j'ai choisi l'Oratoire Saint-Joseph aussi pour tous ces vieux et vieilles qui sont partis, qui auraient rêvé venir eux aussi, comme moi aujourd'hui. Alors je viens un peu pour eux aussi.
Alors ici, il y a un dôme très important. Hein. Il est très connu à travers le monde. Il représente avec sa croix le point culminant de Montréal. C'est la plus grande église du Canada. C'est un lieu de pèlerinage important pour les catholiques. Ils sont 2 millions à venir chaque année en provenance du monde entier. Et l'oratoire a été reconnu comme étant un lieu historique du Canada.
Moi, ce que je sais, c'est que c'est un lieu qui est très aimé par les aînés innus. Très peu sont venus jusqu'à l'oratoire, mais tous ont rêvé
de venir là. Alors Joséphine Bacon, vous êtes une réalisatrice et poète innu, originaire de Pessamit, dans la région de la Côte-Nord. Vous avez publié des recueils de poèmes aux éditions Mémoire d'Encrier, et il paraît que vous aimez bien les pèlerins, vous aimez bien ceux qui cherchent leur chemin. J'ai lu ça dans un article.
Mon Dieu, j'aime tous ceux qui cherchent leur chemin. Parce que quand on a trouvé son chemin, on se retrouve soi-même.
C'est comme ça que vous avez procédé, vous?
Trouver mon chemin, je pense. Je l'ai fait à mes premiers pas.
Au tout début?
Au tout début de ma vie.
Au commencement?
Au commencement, oui.
Les Innus, Joséphine, vivent dans les régions nord du Québec et dans la région du Labrador, à Terre-Neuve et Labrador. Ils sont à peu près 20 000. Il y a eu longtemps un processus d'exclusion des autochtones au Canada. Votre poésie est-elle une façon de contribuer à l'intégration de la culture Innu dans la culture globale du pays?
Ma poésie est toute simple. Elle n'est pas prétentieuse. J'ai écrit pour continuer un peu la tradition orale qu'on me racontait, et pour le transmettre aux jeunes générations et ceux qui viendront demain aussi.
Et vous aimeriez que les Québécois ou les Canadiens anglophones reconnaissent ça, reconnaissent votre présence sur ces terres canadiennes avec cette culture innu?
Mon Dieu, tu sais, la façon qu'ils reconnaissent notre présence, c'est en nous ignorant.
Encore aujourd'hui?
Encore aujourd'hui.
Donc ces 150 ans du Canada que l'on célèbre, qu'est-ce qu'il représente pour vous?
Moi, le Canada, il a plus de 150 ans.
Oui,
ouais. Il était là bien avant.
Alors, c'est la Constitution que l'on célèbre, puisque la Constitution date d'il y a 150 ans.
On célèbre les 150 ans des premiers arrivants, puisque nous y étions déjà bien avant qu'ils arrivent.
Ça vous fait mal, ça, d'être toujours comme ça dans l'ignorance avec les Canadiens, cette séparation entre les communautés?
Je dirais, ce qui fait mal, surtout, c'est d'être comme, pas faire partie intégrante d'une société. On est comme toujours à côté de ce qui se passe. Et quand ils nous font un peu de place, c'est pour être un peu le folklore du pays. C'est ça qui fait mal.
Et vos poèmes alors, Joséphine Bacon, que vous écrivez à la fois en français et à la fois en innu, c'est aussi là un moyen d'écrire une partie de l'histoire innu?
Tu vois, écrire dans ma langue, pour moi, je ne pourrais pas faire autrement. Parce que quand j'écris dans ma langue, ce que j'écris dans ma langue, je le vis de façon très intense. Et quand après, je l'écris en français, c'est une vision que j'écris.
Il y a ce recueil, Un thé dans la toundra, dans lequel vous évoquez les Innus qui ont migré vers la grande ville. Et vous dites, dans ta fuite, tu te fuis, ils ne parlent pas ta langue, tu es là où tu te perds. Qu'est-ce qui arrive aux Innus qui quittent ce que l'on appelle les réserves encore aujourd'hui
et qui arrive dans la grande ville de Montréal, d'Ottawa, de Québec ou d'ailleurs.
Ce poème, je l'ai écrit pour les femmes disparues et assassinées. C'est en pensant à elles que j'ai écrit ce poème. Moi aussi, je suis urbaine. Moi, je me suis pas perdue, tu sais, puis j'ai vécu autrement. Il m'est pas arrivé ce qui leur est arrivé à elles. Et je me sens concernée quand je pense à elles. Autant je me sens concernée aujourd'hui quand toutes ces femmes qui ont été abusées par la société policière, tu sais, c'est un mépris, comme si on n'en valait pas la peine.
Alors vous, Joséphine, justement, vous avez vécu une enfance difficile dans un pensionnat, le fameux, tristement célèbre Mani Outenam, qui est accusé aujourd'hui de maltraitance et de sévices sexuels sur les jeunes Innus qui furent arrachés à leur famille. Vous y avez vécu de l'âge de 5 à 19 ans ?
De 5 ans à 19 ans. Mais est-ce que je peux ne pas en parler ?
Bien sûr.
Oui, je préfère laisser les autres en parler, des pensionnats.
Pourquoi ? Parce que c'est trop dur de vous remémorer ou parce que c'est passé pour vous ?
Comment te dire ? Tu vois, il n'y avait pas que des côtés négatifs à ce pensionnat. Tu vois, en allant dans ce pensionnat, j'ai pu rencontrer toutes les communautés. C'était un rassemblement d'enfants de partout, de rivières différentes. Et tu vois, moi je préfère garder ce souvenir du pensionnat comme d'un grand rassemblement d'enfants qui étions de telle et telle rivière. Pour les côtés abusifs, je préfère que d'autres en parlent que moi.
D'accord, on va respecter ça. Et au moment où vous parlez des enfants, il y en a plein qui nous rejoignent, qui nous entourent ici à l'Oratoire Saint-Joseph, face à cette ville de Montréal avec l'horizon qui vous est si chère, Joséphine Bacon. Vous avez dit... C'est par le rire que nous oublions nos chagrins.
Oui, bien sûr, bien sûr. Oui,
et vous rigolez tout le temps, Joséphine.
Oui, parce que, tu vois...
On me l'avait dit, et quand je vous ai rencontré, je suis venu vous chercher pour venir jusqu'ici, vous avez éclaté de rire en me voyant arriver, alors qu'on ne se connaît pas du tout. Mais je l'ai très bien pris, hein. Au contraire, oui. Je suis un peu comme ça aussi, mais...
C'est tellement... Pour moi, le rire, c'est de première importance. Parce que, tu sais, quand tu ris, d'abord, ça donne de l'oxygène à tes dents. Hein? Et puis, c'est communicatif.
Oui.
C'est comme... Quand tu ris, tu sais, ou tu souris, c'est un échange avec la personne qui te regarde rire ou qui te regarde lui sourire. Des gens ont tendance à s'éloigner des gens qui pleurent ou qui sont chagrinés. Tandis que quand tu ris ou tu souris...
On vient vers vous.
Ouais. On vient vers toi. Ouais, ouais.
Vous voulez bien lire un de vos poèmes ? Oui. Alors vous allez lire en Innu et moi je vais le lire en français. D'accord ?
Oui.
Voilà, c'est le son du monde Innu depuis l'Oratoire Saint-Joseph sur le Mont-Royal à Montréal.
Ça va être notre duo.
Ça va être notre duo.
Nantum nepsente hagegen, nedin tassit. Behe wabian, noab motu jegatwat, wab ma jegambo. Abu jegon bedagwat mohwat. Ote chamanoinyo, muk.
Je rêve au lac de ma terre, aux étoiles qui s'y mirent. Tout est calme dans la toundra, le silence est vrai, les bulldozers ne crachent plus leur fiel. Je suis seul avec ma prière, je cherche l'étoile du caribou, mon guide.
Bravo.
Bravo à vous. Deux libraires ont lu les poèmes de Joséphine Bacon. Jérémy Lagniel, ici à Montréal, évidemment.
Oui, il y a dans l'écriture de Joséphine Bacon, on vient de l'entendre, il y a plusieurs vies qui s'y trouvent dans cette écriture-là. C'est la fête du territoire, c'est le procès de l'ignorance, c'est la célébration de la langue. Lire Bacon, c'est de faire un devoir de mémoire et acte de présence à la fois. Un thé dans la toundra, c'est ce genre de livre où l'économie des mots donne le vertige, où chaque vers frappe comme le paysage.
Anne-Françoise Corr, en Suisse, êtes-vous d'accord?
Ah, complètement, oui, Emmanuel. Grâce à ce beau recueil bilingue, j'ai découvert et aussi tenté d'appréhender l'immensité du territoire de la toundra et aussi, mais restons modestes, les mystères de la langue inoue. C'est un hymne magnifique à la terre, avec un T majuscule, et ses poèmes nous emmènent avec délicatesse et spiritualité, tels des chants, au plus près de ces contrées nordiques réputées rigoureuses, mais qui sont fascinantes pour les urbains que nous sommes devenus.
Vous avez écrit aussi, Joséphine Bacon, « Nous sommes tous des sauvages » en 2011. Et l'anthropologue québécois Serge Bouchard a écrit dans la revue Littoral « Être sauvage, c'est être libre, c'est créer le monde. Être sauvage, c'est exercer notre pouvoir humain. Nous sommes des sauvages parce que nous ne serons jamais vraiment domestiqués. » Vous êtes d'accord, évidemment?
Oui, tout à fait, bien sûr, avec Serge, je serai toujours d'accord. Il nous connaît si bien.
Il y a un autre recueil qui s'appelle « Bâton à message ». Vous écrivez ce poème « Tue-moi si je manque de respect à ma terre. Tue-moi si je manque de respect à mes animaux. Tue-moi si je reste silencieuse quand on manque de respect à mon peuple. »
Oui. Et j'ai écrit aussi « Ne me tue pas d'être vivante. »
On va terminer sur cette notion et sur ce poème. Merci beaucoup, Joséphine Bacon.
Merci à toi.
Vos recueils de poèmes sont publiés chez Mémoire d'Encrier. Alors que le soleil se couche, regardez à l'horizon, Joséphine. Le soleil se couche en ce moment sur le Mont-Royal. Ouais. Merci, Joséphine.
Merci à toi.
La librairie francophone, Emmanuel Guérade.
Et avant de conclure, coup de pouce à un artiste francophone, voici le groupe Volo avec un extrait de chanson française.
Attention, les Lady Gaga, les Rihanna, les Christina Aguilera, je vais vous mettre à l'aise. C'est de la chanson française. Attention, les Madonna, les Shakira, plus toutes celles que je connais pas, je vais vous mettre à l'aise. C'est de la chanson française. C'est pas du groove, c'est pas du funk. Je ne me cache pas comme les Daft Punk. Et loin de vouloir changer le monde avec ses 3 minutes et ses 54 secondes dans le format et les quotas, à l'inverse de David Guetta. Et quand je me permets des oh yeah, c'est toujours dans la langue de Molière. Attention, les Lady Gaga, les Rihanna, les Christina Aguilera, je vais vous mettre à l'aise. C'est de la chanson française. Attention, les Madonna, les Shakira, plus toutes celles que je connais pas, je vais vous mettre à l'aise. C'est de la chanson française.
Le groupe Volo avec un extrait d'un album qui sortira fin janvier et que vous pouvez retrouver sur Internet. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. Merci beaucoup Grégoire Delacour de nous avoir accompagnés pour cette émission spéciale. À bientôt. En ce week-end du 7 janvier, on pense très fort aux dessinateurs et membres de Charlie Hebdo qui sont partis bien trop tôt, il y a 2 ans déjà. À la réalisation de cette émission, Céline Hila avec Florent Beauvallet. À la rédaction, Jean-Philippe Verret avec Christophe Magère et Marie-Louise Beau en France. Martine Béguin-Follet et Annick Chouin en Suisse. René Mikils avec Valérie Elput en Belgique. Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. Je vous souhaite une année 2017 apaisée, pleine de surprises et de joie, le plus possible en tout cas. À la semaine prochaine, même jour, même heure, sur votre radio francophone. Merci pour votre fidélité. À bientôt.